VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Libreville au Gabon. Bonjour à tous. L'opposant gabonais Jean Ping n'avait toujours pas déposé aujourd'hui de recours contre la réélection annoncée du président Ali Bongo lors de la présidentielle du 27 août, à quelques heures seulement de la clôture du délai légal de contestation devant la Cour constitutionnelle. Le camp Ping réclame toujours un recomptage des voix, mais avant tout recours devant la Cour. Mais le président sortant a définitivement fermé la porte à cette possibilité en mettant en avant la loi et les dispositions de la Constitution. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC à la croisée des chemins. Le parti traverse une période de turbulence qui pose la question de l'avenir du président sud-africain et au-delà de celui du parti lui-même. Les derniers mois ont été marqués par des manifestations anti-Jacob Zuma, tension au sein du gouvernement et le tout ponctué par une défaite électorale. Avec 54% des voix au niveau national, le mouvement de l'icône Nelson Mandela reste de loin la principale force politique du pays, mais la perte symbolique de villes comme Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth lors des municipales d'août a mis en lumière sa fragilité et depuis ce réveil, les voix discordantes n'hésite plus à se faire entendre, faisant ressurgir le spectre de la crise de 2008 qui avait contraint à la démission le président et chef de l'ANC d'alors, Thabo Mbeki. Au Mali, découverte d'un important lot d'armes de guerre et de munitions à Tombouctou, cela a été possible grâce au concours des populations qui avaient informé la gendarmerie de la ville d'un mouvement suspect au niveau d'un bâtiment inhabité. Après une semaine d'enquête, ils ont trouvé un véritable arsenal de guerre. Retrouvons à Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
À Badjindé, plein centre-ville, poumon de l'économie de Tombouctou, la gendarmerie nationale a pu mettre la main sur ce dépôt composé d'armes légères, de grenades offensives et défensives, des PA, des lance-roquettes, des obus de mortier de 60 à 80 mm, ainsi qu'une importante quantité de munitions de guerre. L'auteur de ce forfait, selon les enquêteurs, est en fuite. Quant à l'opération, elle suit son cours normal. Rappelons que la même unité de la gendarmerie basée à Tombouctou, sous le commandement du chef d'escadron Siaka Diakité, un certain Oumar Ibrahim Aïdra, ex-militant de Mujao, a été arrêté à Tombouctou. Ce dernier a reconnu avoir collaboré avec le Mujao en 2012. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le dossier de ce journal, le Bénin, qui compte tirer des bénéfices de son économie culturelle. Et pour le président Patrice Talon, cela passe par le retour au pays de tous ces objets sacrés qui auraient été volés, pillés ou offerts et qui font la fierté et la richesse des musées de l'ancienne puissance coloniale. Le Nigeria n'a pu obtenir d'une pareille démarche qu'une simple reconnaissance signée par la France. Mais le Bénin ne désespère pas. Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou, nous en dit plus.
Pour beaucoup, il était temps qu'après la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, quelqu'un prenne la décision de se fier aux exigences de la charte culturelle qui demandait la reconstitution du patrimoine culturel du Bénin.
Décision salutaire, courageuse, parce que ce n'est pas évident. Ce serait toujours une bonne chose que de permettre aux nouvelles générations de pouvoir aller se ressourcer en un endroit sûr où ils peuvent facilement avoir un peu plus d'informations sur ce qui a eu de par le passé sur l'histoire du Bénin.
C'est parce que d'autres pays l'ont réussi qu'aujourd'hui le Bénin estime que lui aussi, il peut aller sur la même voie.
Mais passé la bonne bouffée de joie et de patriotisme, les vraies questions reviennent sur le tapis concernant cette entreprise. Certains pensent que le chef de l'État s'est empressé de prendre une décision sans tenir compte des réalités intrinsèques d'un patrimoine tel que celui qu'on demande le rapatriement. C'est le cas de Franck Ogou, expert dans le domaine. Il est en fonction à l'école du patrimoine africain.
Dans le cadre des rapatriements des biens volés ou pillés, il y a la convention unie droit que les États partis signent afin de s'entendre sur des cas éventuels de rapatriement de biens. Et sur ce point, il faut préciser que la France n'a pas signé la convention unie droit et donc n'est pas concernée par le rapatriement des biens culturels pillés en Afrique. Il faut également dire que pour que cela puisse faire, il faut voir le contenu des accords bilatéraux entre la France et le Bénin. Voici ces accords-là prévoient éventuellement ces cas de rapatriement.
C'est la même rengaine chez Pascal Wanou, ancien directeur du plus prestigieux festival de théâtre du Bénin. Il pense pour sa part que le gouvernement gouvernement ne doit sous aucun prétexte brandir la force pour récupérer des objets qui ont été jalousement gardés par les bons soins de la France.
Et la politique nationale du Bénin en matière culturelle recommande que l'État béninois aille en négociation. C'est une négociation. Et il ne s'agit pas de réclamer quelque chose qu'on en soit disant volé, non.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Sommet du G20, quel projet pour l'Afrique, les pays les plus industrialisés vont-ils réussir dans le sillon tracé par la Chine? Les analystes sont plutôt sceptiques, évoquant l'absence d'un plan clair. Eddy Issangou.
Au sommet de Hangzhou, en Chine, le G20 a approuvé un programme de développement durable pour l'Afrique, mais sa mise en œuvre reste une autre histoire, estime Barry Sotman, politologue à l'Université des sciences et de la technologie de Hong Kong. Sotman estime que bien que l'Afrique soit riche en ressources naturelles et présente de nombreuses opportunités, les intérêts et les niveaux de compétition divergents empêchent les membres du G20 d'œuvrer ensemble pour faire éclore les potentiels de croissance du continent. Les modèles d'affaires à faible marge bénéficiaire en Afrique n'est pas pour toutes les entreprises non plus, ajoutent les politologues. Par exemple, les fabricants chinois des produits de qualité moyenne peuvent se contenter d'une marge de profit mince de 5 à 10%. Or, les entreprises de nombreux pays occidentaux réalisent souvent jusqu'à 30% de la marge bénéficiaire, affirme Sotman. Les analystes souhaitent par exemple que les G20 mettent fin à la subvention des efforts d'exploitation des nouvelles réserves de charbon, de pétrole et de gaz décidées en 2009 à Pittsburgh. Pour eux, le G20 est à l'heure de vérité face à l'Afrique, comme l'a dit l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a loué hier avec insistance les qualités de dirigeant du président russe Vladimir Poutine, bien supérieures selon lui à celles de Barack Obama, à 3 semaines d'un premier débat très attendu et à 2 mois du scrutin qui va désigner le successeur du président américain. Le magnat de l'immobilier a partagé le même plateau de télévision, mais pas au même moment que la candidate démocrate Hillary Clinton. En début de semaine, cette dernière s'est ouvertement inquiétée de graves interférences de Moscou dans l'élection présidentielle américaine. Le président américain lui-même a rappelé jeudi à Pékin son obligation de se soumettre à une décision de justice en sa défaveur sur la mer de Chine au cœur d'un conflit régional. Washington sort ainsi de sa réserve des dernières semaines sur ce dossier explosif en Asie face à l'inflexibilité de Pékin qui refuse jusqu'ici de se soumettre à la décision du tribunal de la Haye. Le refus de la Chine se fait aux grandes dames de ses voisins comme les Philippines, le Vietnam ou le Japon qui ont des prétentions eux aussi sur cette mer stratégique, principale liaison entre les océans Pacifique et Indien. Et le seul auteur encore vivant des attentats de novembre 2015 à Paris, Salah Abdel Salam, a été entendu par des juges antiterroristes, selon une source proche du dossier. Salah Abdel Salam a été extrait de sa cellule au petit matin aujourd'hui avant d'être convoyé sous surveillance maximale au tribunal. Depuis son transfert de Belgique vers la France le 27 avril, le suspect clé des attentats de Paris et de Saint-Denis, qui ont fait 130 morts, garde le silence. Il avait même refusé en juillet d'être extrait de sa cellule pour un interrogatoire. Et puis revenons sur l'Afrique du Sud, où le Congrès national africain, l'ANC, traverse une période de turbulence qui pose, je vous l'ai dit, la question de l'avenir du président sud-africain et au-delà, celui du parti au pouvoir. Ces derniers mois ont été marqués par des manifestations anti-Zuma, tensions au sein du gouvernement, et le tout ponctué par une défaite électorale avec 54% des voix au niveau national. Le mouvement de l'icône Nelson Mandela reste de loin la principale force politique du pays. Et l'opposant gabonais Jean Ping n'a toujours pas déposé aujourd'hui de recours contre la réélection annoncée du président Ali Bongo lors de la présidentielle du 27 août, à quelques heures seulement de la clôture du délai légal de contestation devant la Cour constitutionnelle. Le camp Ping réclame toujours un recomptage des voix avant tout recours devant la Cour, mais le président sortant a définitivement fermé la porte à cette possibilité en mettant en avant la loi et les dispositions de la Constitution. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.